La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui lundi, premier jour d'une semaine consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivaine française vedette des années 60 à 80, Françoise Sagan. Vedette, elle l'était en France, mais aussi partout dans le monde, des États-Unis à la Russie, où bizarrement, même du temps de l'URSS, on lisait ses histoires de bourgeoisie aux mœurs légères avec une très grande liberté. Elle a représenté, aux côtés de Brigitte Bardot, une France insouciante et espiègle, un art de vivre confinant parfois au mal de vivre, mais dont le charme était indéniable. Mais Sagan n'était pas une midinette, et son succès ne relève pas du hasard. Elle pouvait être intimidante, non pas par volonté de se montrer supérieure, mais tout simplement parce qu'elle ne disait jamais de bêtises. Dans ses propos, on ne peut jamais dire qu'elle pêche par un excès de légèreté. Ce qu'elle aimait au contraire, c'était se sentir dépassée par l'intelligence des autres. François Mitterrand, Orson Welles, Jean-Paul Sartre qu'elle fréquentait étaient rien moins qu'à sa mesure. Et c'est de cette femme hors de l'ordinaire dont nous parlons aujourd'hui. Demain et mercredi, nous nous attarderons sur son œuvre avec des universitaires qui se sont récemment penchés sur sa littérature. Jeudi, nous évoquerons l'année 54 au cours de laquelle sa vie a basculé avec la publication de Bonjour Tristesse. Nous parlerons également du Paris de Sagan. Mais aujourd'hui, une émission avec quelqu'un qui l'a connue, qui l'a aimée et qui a été aimée par elle. Une femme qui a raconté leur histoire dans son autofiction « Un amour de Sagan » publié en 2007 aux éditions Pauvert, 3 ans après la mort de la romancière. Cette personne, c'est l'écrivaine et journaliste Annick Jay. Bienvenue à elle et bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Je suis née dans le Lot, à Agaja, dans le sud-ouest. J'ai habité Paris toute ma vie, sauf pendant la guerre, on habitait Lyon.
Vous étiez d'une famille aisée?
Oui, une famille dite...
Bourgeoise.
Bourgeoise, oui.
Vous avez souffert ou ça vous a aidé?
Pas du tout, j'avais des parents absolument charmants. Mon père était industriel et... Ils avaient tous les deux beaucoup d'humour, ils ont d'ailleurs tous les deux beaucoup d'humour toujours. Et c'était des gens absolument exquis. Et c'est même probablement grâce à eux que j'ai... Je suis passé gaiement par-dessus les horreurs du succès sans me casser la figure.
Vous avez été une jeune fille un peu dissipée, mais quelle petite fille avez-vous été?
Ça, je ne me rappelle pas. On n'a jamais eu le culte de la personnalité dans ma famille. Je sais que j'étais une enfant facile à vivre, bonne élève. Je me rappelle qu'à 16 ans, je courais sur des Vespa accrochées à des galopins, donc du courant de mer chez moi, etc. Enfin, c'était une enfance classique. Je rêvais de Saint-Germain-des-Prés et j'y allais de temps en temps, puis voilà.
Et puis voilà, bonjour Annick Jay.
Bonjour Mathieu.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce « et puis voilà » qu'on entend à la fin de l'archive, prononcé par Françoise Sagan, ça la résume totalement. Alors vous qui l'avez bien connue, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup votre introduction parce que c'est exactement elle. C'est vrai que vous parliez de Brigitte Bardot, on a souvent dit que c'était la Brigitte Bardot des lettres. Le mot légèreté s'appliquant à elle, sans doute, lui correspond tout à fait dans la vie, mais pas du tout en tant qu'écrivain, qu'écrivaine. Car en fait, Françoise Sagan, pour chacun de ses 50 livres, n'a cessé de penser, dans le fond, à tout ce qui concerne la mort, le deuil, la séparation, les échecs.
Ah, c'est votre téléphone qui sonne dans ce studio. C'est vrai qu'on... Laissez-le, c'est pas grave. On a oublié de vous dire de l'éteindre, mais ça fait partie aussi d'une forme de légèreté, de ne pas se soucier de savoir qui va vous appeler, si on va vous appeler pendant une émission. Vous avez gardé ça un petit peu?
Oui, disons que j'en suis... D'abord, je suis désolée, excusez-moi.
C'est pas grave.
Je croyais qu'il était éteint, j'avais pris soin de l'éteindre, mais apparemment, je l'ai pas bien fait. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Sagan, donc, elle était... complètement dans son œuvre, centrée sur ce qui n'était pas très léger, dans le fond, ce qui était même l'essentiel. Et c'est pourquoi j'aime tant la manière dont elle l'a exprimé dans sa littérature, c'est que c'était le contraire de sa vie, qui était un peu les pia-pia de la mondanité, mais dans son œuvre, elle est centrée sur l'essentiel, c'est-à-dire que se passe-t-il lorsque ça va pas, lorsque la catastrophe rôde. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est la manière dont elle approche le désastre, c'est-à-dire que on a des détails magnifiques, le climat, le temps qu'il faisait, etc. Et quand la catastrophe survient, le couperet tombe, le destin des protagonistes est scellé, mais il y a une espèce d'économie de moyens formidable. Mais avant, on a eu 20 pages, 30 pages sur des choses, un tableau pratiquement. Elle était peintre aussi à sa manière.
Alors vous, vous avez connu, fréquenté, vous avez aimé Françoise Sagan. On en parlera un peu plus loin dans cette émission. Françoise Sagan, de son vrai nom, Françoise Quarez. Mais entre Quarez et Sagan, entre la jeune fille qui devient célèbre en 1954 avec la parution de Bonjour Tristesse et la femme que vous, vous rencontrez à la fin des années 70, on a le sentiment qu'il n'y a pas tellement, au fond, de différence, Annick Jay.
Oui, elle est restée toute sa vie qui elle était lorsqu'elle a commencé Bonjour Tristesse, c'est-à-dire ce désir de littérature qui l'a saisie soudain, avec cet admirable texte qu'on peut relire à chaque page et qui n'a pas pris une ride. Françoise a toute sa vie incarné sa passion pour la littérature, parce que cette légèreté dont on parlait, que vous avez si bien cerné tout à l'heure dans sa vie, et cette élégance dans le fond qu'elle avait avec tout un chacun, tout en chérissant l'intelligence par-dessus tout, parce que s'il fallait dire un mot concernant Sagan, c'est tout de même la personne, une des personnes les plus intelligentes qu'on pouvait rencontrer à l'époque.
Quand vous dites intelligente, ça veut dire quoi? C'est la compréhension du monde autour d'elle, de l'autre?
Des autres. Des œuvres et des autres. Des œuvres et des autres. Des uns et des autres, des œuvres et des autres. D'abord la littérature qu'elle plaçait au-dessus de tout. Et c'est pourquoi j'ai pas du tout été étonnée quand j'ai vu que François Mitterrand et Jean-Paul Sartre étaient devenus ses amis, parce qu'ils étaient, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, à son niveau. Ils étaient ses égaux, intellectuellement parlant. Et elle s'ennuyait fortement dans ces dîners qu'elle organisait, où il y avait beaucoup de personnes tout à fait ravissantes, mais assez futiles.
Mais pourquoi les invitait-elle alors?
Parce qu'elle avait, elle avait compris chez Proust qu'elle adorait tant, qui était son parrain en littérature, auquel elle doit son nom, le prince de Sagan. Elle avait compris la manière dont il usait de son entourage. Proust se servait de la mondanité pour son œuvre. Et donc, elle, vous remarquerez que tous ces personnages sont d'une justesse extraordinaire, parce qu'elle les a photographiés mentalement pendant ces dîners où elle se cassait, qui lui cassait les pieds peut-être.
Ah, vous croyez que c'était donc un projet pour elle? Parce que elle aurait pu s'entourer, effectivement, d'un milieu littéraire peut-être plus intellectuel. Non pas que Florence Malraux ou Bernard Franck n'étaient pas des intellectuels et des écrivains, mais elle n'était pas, à proprement parler, dans le milieu intellectuel de Paris, Annick Jay.
Non, justement, ni le milieu féministe qu'elle moquait. Je me rappelle qu'elle m'a...
On vous laisse éteindre pour de bon votre téléphone.
Elle se moquait du milieu féministe, de tous les militantismes l'ennuyaient fortement. Elle était imprévisible, et c'est ce que j'aimais beaucoup chez elle, c'est-à-dire qu'elle n'était jamais là où on aurait pu l'attendre. Donc les féministes, les clans, les partis... Tout ça, ça l'ennuyait fortement, mais comme elle était très polie, parce que très intelligente, donc la courtoisie est une forme d'intelligence, donc elle ne le montrait pas. En revanche, si vous voulez, elle tentait de comprendre à chaque fois chez l'autre, avec respect, ce qu'il avait de meilleur. Et ça, cette bienveillance de Sagan, ça m'a toujours frappée aussi.
Alors j'aimerais qu'on parle un peu avec vous, Annick Jay. Je ne sais pas si elle vous en a beaucoup parlé, de son enfance, de son adolescence. D'où venait Françoise Sagan?
J'ai connu sa mère, je n'ai pas connu son père. Son père était mort déjà, mais j'ai connu sa mère, une adorable dame, vieille dame, blonde aussi, enfin châtain clair.
Marie-Dominique Lelièvre la compare à Valérie Lemercier dans son côté peut-être grande bourgeoise, peu conséquente, en tout cas c'est comme ça qu'elle la présente. Marie-Dominique Lelièvre qui a écrit une biographie de sa grand-mère.
Oui, en effet, je crois que la mère de Françoise avait surtout comme qualité d'être cette part de gaieté, de légèreté qu'avait sa fille, c'est-à-dire ce côté d'ailleurs... Justement, grande bourgeoisie, parfaitement en harmonie avec le moment, l'instant, et donc d'une élégance parfaite, d'une gaieté sans faille, mais pas sotte non plus. C'est-à-dire que elle était très fine, la mère de Françoise, et Françoise l'adorait d'ailleurs. On est allé la voir ensemble toutes les deux, je me rappelle, deux ou trois fois dans ce grand appartement, je crois que c'était dans le 17e. Donc Françoise était très attachée à ses parents, très attachée à son frère que j'ai connu aussi. Je l'ai connue dans le fond, Françoise, à une époque, et je l'ai aimée à une époque où elle était très heureuse. Au début des années 80. Elle était belle, très entourée, au fait de sa gloire d'écrivain. Et elle avait tous ses proches vivants et qui l'aimaient et qui l'entouraient, dont la plus proche des proches, Peggy Roche.
Alors, on parle, et vous évoquez à l'instant, quand même une forme de fêlure chez Françoise Sagan. Et elle a beaucoup raconté que la guerre, elle est née en 35, donc elle était très jeune, l'avait en partie traumatisée, et peut-être pas tant la guerre et l'occupation, que de savoir qu'il y avait eu la Shoah. Est-ce qu'elle vous en a parlé ?
Oui, et bien entendu, c'était une des raisons plus ou moins claires et nettes de sa passion pour Bernard Franck. Bien entendu, Bernard Franck qui disait « on m'a volé ma bourgeoisie » et qui disait que c'était à Vichy, enfin le gouvernement de Vichy qui lui avait appris ce que c'était d'être juif. Bernard Franck a énormément souffert de l'antisémitisme, énormément, beaucoup plus qu'on ne le dit aujourd'hui. Je sais parce qu'il m'en parlait beaucoup.
Et donc, raconte dans Un siècle débordé.
Oui, et puis il a fait cet admirable Israël qu'on a un peu oublié. C'est dommage parce qu'il faudrait le distribuer dans les écoles. Ce narrateur qui dit « j'ai violé vos filles, j'ai cambriolé vos banques, je suis juif avec mon gros nez, etc. » C'est formidable. Et donc, si vous voulez, Israël, Bernard Franck, pour Françoise, pour revenir à votre question, c'était... quelque chose de sacré, justement, parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup souffert elle-même de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'antisémitisme. Donc, elle a aimé Bernard aussi pour sa judéité.
Moi, personnellement, j'aurais pris Quarez, mais mon père m'a dit « Nous sommes les seuls Quarez de l'annuaire, c'était vrai. Si jamais ton petit roman à la noix a du succès, on va t'embêter par le téléphone. S'il te plaît, change de nom. » C'est formel, alors. J'ai dit bon, et puis j'ai cherché, et puis j'ai cherché sans chercher, et un jour, Julien m'a téléphoné en me disant, alors, on imprime bien tout de suite, pas pendant la demi-heure, et j'étais affolée, il y avait un livre de pause qui traînait. Bon, moi j'ai feuilleté, et j'ai trouvé le prince de Sagan passé dans sa calèche. J'ai dit, tiens, Sagan, c'est joli. Et heureusement, c'est un nom simple, S-A-G-A-N. Parce que je m'appelais Quarez, je suis née Quarez, Q-U, c'est écrit Q-U-O-I-R-E-Z. Après, j'ai épousé un homme qui s'appelait Scholler, S-C-H-O-E-2-L-E-R. Et après, j'ai divorcé et j'ai épousé un autre homme qui s'appelait Westhoff, W-E-S-T-H-O-2-F.
Oui.
Alors, vous pensez que Sagan, c'est une bénédiction. S-A-G-A-N, pouf. Soulagé.
L'histoire des différents noms de Françoise Sagan, Annick Jayles, c'est aussi l'histoire de ses différents amours, l'histoire de ses différentes vies.
Oui, en effet, ce qui avait de formidable chez Sagan, c'était qu'elle était en avance de 50 ans, quoi, sur son temps, dans sa vie de femme. Elle aimait les femmes et les hommes, également. Et quand elle les aimait, elle les aimait. L'amour, c'est ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment, disait Bernard Franck. Et voilà. Et donc, quand elle les aimait, et on les voyait. Et puis, comme moi, à un moment donné, elle m'a aimée, ben, on m'a vue chez elle, jusque chez elle. Elle m'a donné la possibilité de m'installer, d'avoir ma garde-robe, mes vêtements. C'était les siens, d'ailleurs, parce qu'on avait la même taille. Donc elle me disait, tiens, prends cette jupe, prends ceci, etc. Et puis au lieu de traverser tout Paris le matin pour aller à ton journal, ben, tu seras, ce serait beaucoup mieux ici. Et donc elle était une femme passionnée par ce qu'elle aimait. Elle était à la fois hétérosexuelle et gay. Et elle s'en portait fort bien. Et elle se moquait totalement de ce que pouvaient penser les autres, de la manière dont elle vivait.
Mais elle ne revendiquait pas non plus. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu Françoise Sagan signer une quelconque pétition pour demander, par exemple, davantage de droits pour les homosexuels.
Jamais. Jamais, parce que justement, ça, c'était le genre de choses casse-pieds. C'était les insistants, ça. C'est-à-dire tous ceux qui cassent les pieds, quoi. Tous ceux qui insistent et qui sont ennuyeux parce qu'ils en font trop. Elle était toujours dans cette subtilité formidable qui fait qu'elle vivait. Elle incarnait la liberté et la modernité des femmes qui allaient poindre, qui venaient, mais elle n'en faisait pas tout un cinéma et elle ne voulait pas de tracts et de guidelines de la meilleure façon d'être une femme libre. Elle l'était.
Et de fait, c'est vrai que la société d'aujourd'hui ressemble peut-être davantage à la société que décrit Françoise Sagan dans ses romans que à la société de l'époque.
Complètement, c'est pour ça que je pense qu'elle était très en avance, au moins de 30 ans. Et donc, par exemple, le pouvoir des femmes, elle l'incarnait, mais elle ne voulait pas. Je l'ai vu dans des réunions qui lui cassaient les pieds, où elle sortait soi-disant pour aller prendre un téléphone, parce qu'il n'y avait pas les portables. Et en fait, c'est parce que ça lui cassait trop les pieds, quoi, de continuer à parler avec des théories. Elle détestait Françoise, comme une sorte de grossièreté, les généralités. Elle détestait les généralités, donc les slogans, les partis, les points de vue, tout ça. Elle disait toujours, vous avez remarqué, les sondages, on parle toujours de sondages, moi j'ai jamais été sondée. Et elle disait, ce qu'elle aimait chez Bernard Franck, c'était aussi ça, c'est qu'il était exactement son jumeau. C'est-à-dire que lui aussi détestait les partis, les slogans, les avis, les généralités. Ils étaient toujours dans la subtilité, quoi. C'est le mot qui les caractérise, en dehors de leurs travaux.
Et donc, vous avez vécu avec ces gens-là, puisque c'était des gens qui vivaient ensemble. On en parlera peut-être un peu plus précisément dans cette maison de la rue d'Alésia en seconde partie. Mais on peut déjà dire que vous avez découvert aussi une Françoise Sagan qui régente tout. Une Françoise Sagan qui vit dans cette maison avec autour d'elle son univers dont elle est la reine d'une certaine façon.
Oui, vous avez raison de souligner, elle régentait assez bien son univers assez foutraque.
C'est un mot qu'elle a inventé d'ailleurs.
Oui, oui, que Bernard employait aussi beaucoup. Mais ils aimaient bien ce côté un peu foutraque. Foutraque, mais assez régenté dans le fond, par Peggy. Parce que dans le fond, Peggy...
Alors dites-nous qui était Peggy.
Alors Peggy Roche était la rédactrice en chef de la mode au magazine Elle. Et c'était une femme d'un talent extraordinaire pour tout ce qui concernait les vêtements. Elle savait ce que c'était que l'élégance des hommes et des femmes pour ce qui était des parures, des vêtements, des attitudes, etc. Alors c'était très curieux de voir cet assemblage entre Sagan et Peggy, mais elle s'aimait profondément.
C'est Peggy le grand Roche, amour de Françoise oui, Sagan.
Oui, oui. Peggy Roche a été vraiment le grand amour de Sagan. Et d'ailleurs, lorsque j'ai appris la mort de Sagan, malheureusement j'étais loin, j'ai tout de suite eu une très forte image atroce que Françoise ne pourrait pas survivre. Parce qu'elle faisait tout, Peggy. Vous parliez de la maison de la rue d'Alésia, donc elle décidait des courses. Elle décidait de... Si on partait en voyage, elle préparait les valises, elle demandait à Françoise, tu veux faire quoi demain, etc. Elle faisait des programmes. Et surtout, elle permettait aux visiteurs de rester ou de partir. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire un petit peu admettre au début par Peggy, qui à la fin m'adorait. Mais au début, ça a été vraiment un peu compliqué, parce que évidemment, elle ne voyait pas d'un si bon œil l'arrivée de Xavier dans l'invité de Beauvoir. J'étais un peu la Xavier, quand même, à un moment donné, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait là, et pourquoi, et comment.
Donc c'est une sorte de colocation régentée par Peggy Roche, alors.
Oui, au début, oui. Mais après, ça s'est un petit peu arrangé, on est devenus très amis avec Peggy. Et donc Peggy réalisait des sujets mode pour les magazines que j'avais le plaisir d'animer. Des magnifiques sujets mode, c'était une formidable rédactrice en chef de tout ce qui concernait le visuel, les bons photographes, etc. Et elle avait pour Françoise une espèce d'adoration profonde qui faisait qu'elle comprenait tout de suite ceux qui aimaient vraiment Françoise ou pas. C'est pour ça qu'elle m'a acceptée d'ailleurs.
Et elle-même, Françoise Sagan, est-ce que vous diriez qu'elle s'intéressait profondément aux autres, Annick Jay?
Oui, uniquement pour sa littérature. C'était le côté un peu, peut-être un peu dur pour ceux qui étaient à côté de la littérature de Françoise, c'est qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait pour elle, sa religion.
Sa religion.
Ah oui. C'était, vous savez, c'était un monastère, la rue d'Alésia aussi par moments. C'est-à-dire qu'il y avait Bernard Franck qui ne pensait qu'à ça, la littérature, qu'à ça. Et Sagan, qui était complètement aussi dans cet univers-là. Et moi qui écrivais mon premier roman. Donc c'était vraiment, pour moi, un merveilleux stage. Donc dans l'endroit le plus beau du monde, celui dont je rêvais quand j'étais gamine, la littérature.
Donc plutôt que de chercher davantage de compagnons avec qui elle aurait pu réellement discuter beaucoup, encore une fois comme Bernard Franck, ils adoraient la conversation, vous dites qu'elle préférait s'entourer de personnages de romans pour nourrir sa littérature. Vous pensez
oui,
que c'est ça?
Je pense même, j'en suis quasiment certaine, parce qu'elle me l'a expliqué. Et si vous voulez, elle avait deux vies, Françoise. Il y avait la vie mondaine, Castel, les dîners, etc. Et puis, il y avait cette petite maison moche, dans un jardin moche, où elle allait vite écrire, avec sa secrétaire qui s'appelait Isabelle à l'époque, et où j'ai eu la chance d'aller avec elle, ce qui, paraît-il, n'est même pas arrivé à Bernard Franck. Elle refusait tout témoin de l'écriture, mais j'ai assisté à ses séances d'écriture.
De quelle maison vous parlez ?
Alors, c'était dans la Cité des Fleurs. C'était la maison d'Isabelle, sa secrétaire. Et je pense que, d'ailleurs, Isabelle est toujours avec nous. Alors, Isabelle, encore un personnage de roman, Isabelle aimait Françoise. Et donc, elle souffrait atrocement, parce que Françoise aimait tellement de personnes et de sujets, de romans, etc. Donc, elle aimait Françoise profondément, et donc, elle lui avait arrangé cette grande pièce vide, où toutes les deux se rendaient, c'était une machine à écrire. Et donc, Françoise fumait des coules toute l'après-midi, et elle dictait son texte à Isabelle qui tapait.
Comment vous dépensez votre argent?
Bof, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'est pas grand-chose à moi. Si, j'ai une maison de campagne que j'ai gagnée, au jeu d'ailleurs, mais ça coûte assez chaud à entretenir, quoi. Surtout qu'il y a toujours des gens qui y vont, qui sortent, qui font passer 10 jours, 15 jours. Alors, une maison toujours en état de marche, ça finit par coûter assez cher. Et puis...
C'est vrai cette histoire-là de maison? Qu'un matin, vous êtes arrivé, vous louiez cette maison en Normandie?
Non, je ne voulais pas, je l'avais loué. Et puis, la veille du départ, je suis arrivé avec l'argent, j'ai gagné l'argent, pile correspondait à la somme d'achat. Mais je l'ai su au petit matin en arrivant.
C'est vrai, ça, c'est pas
une
histoire.
Ah oui, c'est vrai. Oh non, ça, j'ai les témoins. Il y a Bernard Franck qui peut vous le dire, il y a mon frère qui était là, tout
ça. Parce qu'on a l'impression que ça peut arriver que dans un roman. Or,
oui,
ça vous arrive dans votre vie à vous.
Mais j'ai peut-être triché sur un jour. J'ai peut-être dit que je partais le 8 août, c'était peut-être le 5 août, je veux dire, j'ai peut-être arrangé un truc comme ça, mais il y avait vraiment 8 millions de gagnés et 8 millions à la maison, ça c'est vrai. Et 8 hectares à peu de terre. Il était très tôt, 8 heures du matin, c'est vrai, parce que ce qui m'a le plus décidé à l'acheter, c'est que je devais faire tout l'inventaire avec le propriétaire. Je suis tombée de fatigue, j'ai passé la nuit à jouer, j'ai mal aux pieds. L'idée de ne pas faire l'inventaire et de pouvoir aller me recoucher, mais c'était... Une maison de campagne, c'était extrêmement commode, non seulement pour les amis, mais aussi pour les hypothèques. Quand on a des ennuis d'argent, une hypothèque, une maison de campagne, c'est fou comme les banquiers peuvent y croire. Ils prennent beaucoup d'argent pour une maison.
Vous verriez sans argent?
Je sais pas, peut-être sans doute très mal, en m'arrachant les cheveux, je sais pas. Je sais que c'est très... C'est même presque choquant d'en parler comme ça, de manière légère, mais... Peut-être mieux en parler avec légèreté qu'avec passion.
Un entretien avec Laure Adler, c'était dans Côte d'Amour en 1989. Alors s'il y a bien quelque chose qui raconte le rapport à la vie de Françoise Sagan, c'est peut-être justement son rapport à l'argent, Annick Jay.
Oui, son rapport à l'argent qu'elle avait beaucoup à l'époque, elle en avait beaucoup d'argent à l'époque.
Ce qui n'a pas été toujours le cas.
Ce qui n'a pas été le cas après. Elle avait de même une très bonne santé à l'époque, et donc elle recevait énormément. Elle était très généreuse, Françoise, avec ses amis, avec cette mondanité dont j'ai parlé. Et pour préciser un peu les choses concernant ses conversations littéraires, bien sûr qu'elle en avait besoin, elle s'en nourrissait, mais c'était Bernard Franck uniquement, toute la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, quand elle n'écrivait pas, elle parlait avec Bernard. Et il ne se couchait jamais avant 5 ou 6 heures du matin. Donc il fumait, il parlait, etc. Il parlait politique, il parlait littérature. Et cet argent qu'elle avait, elle le dépensait pour les autres, les dîners, les voyages. Elle invitait tout le monde au Breuil. Il faut dire que ce manoir du Breuil était magnifique, un peu déglingué, un peu inconfortable, mais très beau. Et tout le monde y séjournait agréablement, c'est-à-dire sans elle. Il y avait la cave, il y avait la gouvernante, les employés de la maison, etc. Et les gens ne répugnaient pas, ne trouvaient pas bizarre de rester là sans elle, ce qui m'a toujours étonnée, parce que il n'y avait pas l'idée de rester chez quelqu'un sans la personne. Enfin, c'est comme ça, c'était la tradition. Et Bernard Franck y séjournait aussi de temps en temps avec elle.
De toute façon,
là, ils étaient seuls.
Elle aimait bien être dans sa chambre avec tous ses amis dans son salon. Enfin, c'était quelque chose qu'elle aimait, d'avoir du monde chez elle, mais pas forcément pour être avec eux.
Oui, sa politesse était parfaite. C'est-à-dire qu'elle avait cette chambre en haut avec cette terrasse magnifique. Et je me rappelle qu'elle venait toujours dès qu'il y avait un départ, parce que c'est comme, vous voyez, c'est comme dans les clubs de vacances, il y avait des départs et des arrivées. Donc les arrivées et les départs, elle les faisait. C'est-à-dire qu'elle était là, même si c'était à 8h le matin alors qu'elle s'était couchée à 5h, elle était là pour présider la table du petit déjeuner pour les arrivées. Et les départs, ma foi, elle faisait au revoir sur le seuil du Breuil. Mais ça m'a toujours subjuguée. Je veux dire, elle était avec chacun comme s'il était le trésor de sa vie, quoi. Et en fait, dès qu'il était parti, elle l'oubliait, quoi.
Alors, vous l'avez accompagnée au casino aussi ?
Oui, oui. Je m'en souviens très bien parce que c'était une séance un peu risquée. Je lui avais demandé de... Enfin, elle avait voulu plutôt porter un collier que je lui avais offert. Et elle avait beaucoup gagné. C'était merveilleux de la voir jouer parce que on comprenait mieux, dans le fond, son amour du jeu en la voyant. C'est-à-dire quelqu'un qui était complètement pris par ce qui est une forme d'addiction, que par exemple moi je n'ai pas, mais qu'elle avait, et elle était heureuse dans ces moments-là. Parce qu'il faut savoir que Sagan n'était pas quelqu'un d'heureux. Elle était quelqu'un de profondément séparé d'elle-même. Tout ce qui pouvait la rapprocher d'elle-même lui faisait du bien, ça cautérisait la plaie. Elle était séparée, on le voit bien dans Toxique d'ailleurs.
Toxique qui est donc ce livre qu'elle écrit après son accident de voiture, dans 1957, elle est hospitalisée, elle doit rester 3 mois. Et donc elle écrit Toxique, où elle raconte justement comment elle va devenir accro aux médicaments qu'on lui donne, qui sont des dérivés de l'opium.
En effet, c'était une cure de désintoxication, et elle exprime assez bien là ce qu'est cette séparation d'avec elle-même. C'est pourquoi Sagan, qui se drogue, c'est l'explication, et là, dans Toxique, c'est que il y avait une paroi de verre entre elle et elle-même. Donc, elle avait besoin de réchauffer tout ça, de se resserrer d'elle-même. Et donc, les amants servaient à ça, les maîtresses aussi, la drogue, pas l'alcool. Elle avait arrêté l'alcool parce qu'elle pouvait pas tout, elle pouvait pas, le palfium et le vin blanc, ça n'allait pas ensemble. C'était ça, la conversation aussi, même avec les mondains, lui permettait de peut-être d'oublier cette séparation d'avec elle-même qui la faisait beaucoup souffrir.
Alors on va aller un petit peu ailleurs qu'à Paris, nous allons aller à Cajard dont nous parle maintenant Olivier Mauny dans En compagnie des revues. Olivier Mauny du journal Sud-Ouest. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour Nick Jaël.
Donc vous allez nous parler de ce petit village français du Lot qui n'appela jamais Françoise Sagan autrement que la petite Kiki.
Oui Mathieu, là où pour Sagan tout commença
Et où tout, si j'ose dire, s'est achevé. Cajar, gros village d'un peu plus de 1000 âmes, blotti entre les rives du Lot et les hauts plateaux du Cos qui l'encerclent. Où elle est née, vous l'avez dit, le 21 juin 1935, au 45 boulevard du Tour de Ville, dans une maison bourgeoise au toit d'ardoise, dans la chambre même où naquirent sa mère, son frère et sa sœur. Où elle repose désormais, non dans le cimetière communal d'ailleurs, comme trop de gens le croient, mais dans celui plus modeste et plus beau de Sezac, un hameau du nom de Sezac, un peu plus loin dans la vallée, à quelques kilomètres de là, entouré de ceux qui n'ayant jamais su comment vivre sans elle, n'imaginèrent pas plus comment passer l'éternité loin de sa compagnie. Je veux dire par là Bob Westhoff, le père de son enfant et son deuxième mari, ou Peggy Roche, gardienne du temple, vous l'avez dit Annick Jail, et certainement, vous l'avez dit également, son plus grand amour. Cajar, donc, perdu au cœur du territoire, au cœur du roman national, contribue à la légende Sagan, lui épargnant d'être hors sol ou considérée comme trop parisienne, mais dans le même temps, il s'agissait d'un échange de bons procédés. Tant la gloire de la petite Kiki, ce surnom que lui donna son père et auquel, revenu au pays de l'enfance, Françoise répondit toujours, forgea en partie celle de Cajar et de ses environs, transformant le village, durant les années 70 pour l'essentiel et pour la qualité de quelques-uns de ses visiteurs en villégiature, en un très curieux Saint-Tropez rural.
Alors qu'est-ce qui vous fait, Olivier Mauny, employer cette expression de Saint-Tropez rural ?
L'empirisme, Mathieu. Même si Françoise Sagan n'était nulle part autant elle-même qu'à Cajar, Sagan, ça allait pour le manoir d'Ercomoville, en Normandie. Ici, à Cajar, dans le Lot, elle restait Quarez et même Kiki. Donc, même si elle n'y est plus vraiment la scandaleuse de Bonjour Tristesse, pour l'anecdote, Bonjour Tristesse n'a choqué personne à Cajar en 54, hormis le curé du village, qui fit un prêche tout à fait flamboyant contre le livre, dit-on, hein, je n'y étais pas, même si elle n'y amena vraiment que les intimes, au nombre desquels, bien sûr, votre invité du jour, et non la meute de ses courtisans et autres picassiettes dont elle ne s'entoura que trop, Cajar, bien vite, en ces temps pré-bobo de retour à la terre, ne resta pas ignoré. Mais il est vrai que Sagan n'était pas seul en cause. Le plus célèbre auteur d'anthologie poétique en France à l'époque, le président de la République, Georges Pompidou, y avait élu domicile dans une très jolie demeure perchée sur le Cos. Et lui et sa femme Claude recevaient beaucoup, et Christian Bourgois, mais aussi Dominique Deroux, grande figure de la littérature, évidemment, furent parmi les visiteurs du couple présidentiel. Amis proche de Jacques, le frère de Françoise, trop proche, persifle certains, Madame Claude y installe également son petit Sam Suffi. Non loin de là, le neveu de Romain Gary, Paul Pavlovitch, ne se fait pas encore appeler Émile Ajar lorsqu'il vient faire son tiercé sur la place du village. On peut aussi croiser, toujours sur la même place du village, Louis Malle, venu en voisin de sa propriété lotoise, accompagné d'Alexandra Stewart ou de Suzanne Sarandon, qui était sa femme alors, mais aussi un temps de Patrick Modiano, ayant consenti à quitter ses rues de Paris pour écrire avec le cinéaste le scénario de ce qui deviendra plus tard Lacombe Lucien, et il en suivra même le tournage entre Lot et Quercy.
Alors on peut se demander, Olivier, comment Françoise Sagan a vécu cette effervescence dans ce qui était d'abord pour elle son pays d'enfance.
Je ne sais pas, sans doute Annick Jail pourrait mieux y répondre que moi. S'en est-elle seulement vraiment rendue compte de cette effervescence ? N'était-ce pas son climat naturel, en quelque sorte ? N'y a-t-elle pas aussi un peu tout de même contribué ? Tous les témoignages que j'ai pu glaner au fil des ans de ceux qui connaissaient la petite Kiki depuis toujours affirment qu'elle n'a jamais changé et qu'elle demeurait essentiellement profondément gentille. On le croit sans peine, comme on croit aussi qu'elle fit régner, et ce depuis l'enfance, sur son village natal, un esprit de fantaisie qui était le bienvenu. Avec elle, Cajar connut sa Dolce Vita. Cela commençait souvent chez Yvette Barrand, la femme du compositeur Michel Magne, une grande antiquaire parisienne spécialisée dans la découverte à l'époque de l'art déco, à qui Sagan avait fait acheter la maison mitoyenne de sa maison natale et se poursuivait n'importe où, mais pas avec n'importe qui, seul invité quasi permanent, Bernard Franck, dont l'épicier du village et partenaire de quartet Jean Roc, qui sera garagiste plus tard, se souvenait qu'il était inséparable durant ses premières visites cajarquoises, je vais peut-être vous surprendre, Annick Jail, de son ours en peluche. Les invités sont triés sur le volet, comme celui que Françoise reçoit, un rien intimidé tout de même, un jour d'août 1985, et qu'elle loge dans une ancienne mercerie qu'elle louait alors et qui porte le joli nom de la Confiance. François Mitterrand, puisque c'est de lui qu'il s'agit, passera à Cajar un court séjour fort gai. Ce jour-là, peut-être, la romancière comme son cher village de Cocagne auront jeté leur dernier feu. Mais mon Dieu, Mathieu, que la fête fut belle.
Vous avez vu Annick Gell comme il parle bien de Cajard. On dirait qu'il connaît personnellement Olivier Mauny, c'est le cas ?
On a même l'impression qu'il a vécu là avec François.
Est-ce qu'il aurait vécu là avec François ?
Oui, d'ailleurs, ils sont très proches par mille.
Oh, par effet de métempsychose, peut-être, tout au plus. Non, oui, j'ai la chance de connaître assez bien le village de Cajard où je peux y exercer quelques villégiatures. Mais c'est vrai que tout dans ce village respire une certaine élégance, un peu désuète désormais, fanée des années 70 et de ce demi-monde qui n'était pas encore la jet-set vulgaire d'aujourd'hui et qui était quelque chose qui est certainement disparu aujourd'hui.
Mais alors tous ces gens, les Modiano...
Mais que vous ressuscitez admirablement, Olivier.
Merci Yannick.
Les Modiano, les Pompidou, ça c'est quand même pas Sagan qui les fait venir. Parce que au départ, Cajard, c'est juste un petit village du Lot.
Non, effectivement, le Lot a toujours eu une assez bonne réputation, y compris... Ça, le Lot, j'ai tendance à dire que c'est le Luberon des années 70, vous voyez. On va se translater du Lot vers le Luberon tout au long des années 80. Je sais pas exactement comment Pompidou, qui, comme vous le savez, était auvergnat, a atterri dans ces montagnes qui sont tout à fait différentes de celles de Montboudif, parce qu'il est, mais certainement que, je me demande si d'une certaine manière, on ne parlait pas à l'époque de People, mais si Françoise Sagan d'un côté et Georges Pompidou de l'autre, pour des raisons différentes, je vous l'accorde, n'étaient pas les deux plus importants People français à l'époque. Et les deux se retrouvent à résider une partie de l'année dans un petit village de 1000 habitants.
Alors Annick Gell, au fond, n'est-ce pas, hein, c'est bien.
Oui, parce que c'est exactement ça dans le fond. Et j'ajouterais que Françoise Sagan à Cajard, c'était le seul endroit de la Terre où elle écrivait dans la journée. Ça, c'était extraordinaire.
Sinon, elle écrivait effectivement la nuit.
Jamais ailleurs, nulle part. Mais là, à Cajard, dans cette petite chambre où il y avait un rideau, je me rappelle, il y avait une douche, un rideau rouge où elle accrochait les listes de courses à faire, elle s'y mettait dès après le petit déjeuner, quoi. Elle travaillait là sur son cahier à spirale. Et d'ailleurs, j'en ai certains de l'époque. Je me rappelle qu'à l'époque, elle écrivait La femme fardée. Si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai à peu près tout le manuscrit de La femme fardée, parce qu'elle me l'est donné après. Et donc, qui s'appelait pas La femme fardée d'ailleurs, qui s'appelait pas... Narcissus, ça s'appelait le manuscrit. Parce qu'elle voulait évidemment, comme son titre l'indique, faire une satire un peu de l'égoïsme, une satire sociale aussi.
Merci, merci Olivier. Vous restez évidemment avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez La Compagnie des auteurs et nous parlons de Françoise Sagan jusqu'à jeudi. Annick Gell, auteur d'Un amour de Sagan et qui l'a bien connu, est avec nous dans ce studio ainsi qu'Olivier Mauny.
Quand tu dors près de moi, tu murmures parfois le nom mal oublié de cette femme que tu aimais. Et toute seule près de toi, je me souviens tout bas de ces choses que je crois, mais que toi, mon chéri, tu ne crois pas. Les gestes étourdissants, étourdis de la nuit, les mots aimés.
Dalida dans une chanson écrite par Françoise Sagan. Quand tu dors près de moi, vous avez dû danser un petit peu sur cette chanson, Annick Gell, j'en suis sûr.
Qui incarne en tout cas bien la nostalgie de Sagan vis-à-vis de ce sentiment qu'elle n'éprouvait pas. Elle aurait voulu croire à l'amour, mais elle n'y croyait pas. Dans le fond, Barthes et elle ont un point commun, c'est qu'ils sont des athées de l'amour. Ce que Barthes a théorisé si bien, admirablement, Françoise l'a incarné dans ses romans.
Alors vous racontez que justement vous avez rencontré,
et dans ses chansons,
vous avez rencontré Roland Barthes, c'était aller name dropping chez Bernard-Henri Lévy, et en l'écoutant parler, vous avez pensé à Sagan, et pourquoi ?
Eh bien justement, je ne savais pas à l'époque, parce que je n'avais pas, je pense pas que j'avais lu Fragments, Mais quand même, il y avait déjà pas mal, il y avait les séminaires, etc., le degré zéro de l'écriture. La même subtilité, la même passion pour la littérature. Quand on lit la préparation du roman de Barthes, on est frappé de voir à quel point Sagan obéissait à ces règles que lui, Barthes, jugeait essentielles pour qu'un roman soit réussi.
C'est-à-dire, quelles règles ?
Eh bien, par exemple, le fait que chaque titre, chaque roman réponde à une sorte de nécessité. Et même si la critique à l'époque reprochait à Sagan d'être légère dans ses romans alors qu'elle était simplement dans sa vie, en fait, elle était grave dans ses romans, elle n'était pas légère du tout. Parce qu'il y avait à chaque fois une nécessité, elle utilisait les fêlures dont vous parliez tout à l'heure de sa vie, parce que sa vie sentimentale n'était pas forcément heureuse, et pas toujours en tout cas. Il n'y avait qu'une chose qui marchait, c'était Bernard Franck, son affection pour Bernard Franck.
Et lui aussi était séparé de lui-même, comme vous dites.
Alors lui, Bernard, il ne s'est jamais remis tout à fait. À ça, vraiment, il ne s'est jamais remis tout à fait de la rupture avec Sartre. Ça a été la douleur de sa vie.
Qui arrive très jeune quand même dans son histoire.
Oui, qui arrive très jeune parce que Sartre était son parrain littéraire. Sartre lui demandait de venir chez lui lire ses cahiers, Géographie universelle. Et donc Sartre avait tout de suite repéré qu'il y avait une forme de génie là. On n'écrit pas comme ça par hasard. Et donc, si vous voulez, c'était formidable pour Bernard, Franck, de voir que Sartre, qu'il vénérait évidemment, avait de l'estime pour ses écrits et même un peu plus, c'était étonné. Et lorsque Bernard a rompu avec lorsque Sartre a exilé Bernard Franck, il n'en a jamais parlé à personne et à très peu de monde, parce qu'il était fier, Bernard Franck, mais c'était sa souffrance. Il y avait deux choses, l'antisémitisme et la rupture avec Sartre, qui fondaient son chagrin.
Olivier Mauny.
Oui, moi je trouve très intéressant le parallèle, parce qu'inattendu aussi, et assez lumineux dans le même temps, avec Roland Barthes, évidemment, débouchant sur des paysages différents. Vous allez croire que je fais une obsession de la vie cajarquoise, mais la Sagan de Cajar, c'est le Roland Barthes d'Urt chaque été. Quand on lit dans le Barthes par lui-même ce qu'il considère être comme l'essence de ses séjours basques, enfin basco-béarnais à Urt, quand il parle de la quiétude insexuelle des vacances, il y a quelque chose de cette
ombre-là. Est-ce qu'on peut parler de la quiétude insexuelle de Françoise Sagan ?
On peut pas. La vérité est qu'on peut pas vraiment en parler pour Roland Barthes non plus. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, mais c'est un horizon lointain, si vous voulez. Mais il y a quelque chose cet ordre-là d'un rêve phalanstérien.
Oui, d'être ensemble, c'est ça. D'être avec des amis, avec
d'être
des gens,
à la fois
et de
retranché
d'être pas séparé,
ensemble,
peut-être,
d'être dans
justement.
Le même temps retranché ensemble.
Ensemble.
Et ça c'est très intéressant. La Sagan de Paris, enfin surtout des dernières années, et puis de Normandie, la pauvre, elle est très très loin de tout ça. Elle est très loin d'elle-même, elle est très loin de son talent, de son propre talent littéraire. Et j'ai tendance, avec quelques romantismes peut-être, de penser qu'elle en est morte. C'est-à-dire que le jour où elle s'est mise à écrire de mauvais livres, elle n'avait plus qu'une chose à faire digne de son talent, c'était de disparaître.
Et à partir de quand il y a des mauvais livres chez Françoise Sagan, selon vous ? C'est quoi les mauvais livres de Françoise Sagan ?
Pour moi, après La femme fardée, c'est plus tout à fait au niveau. Hein. Moi,
oui,
le très grand livre, c'est peut-être en 83, 84, vous vérifierez, c'est ce merveilleux livre éblouissant qui est Avec mon meilleur souvenir.
Où elle parle notamment, c'est un peu le préféré de presque tout le monde. Hein.
Oui.
Elle parle notamment de Billie Holiday, en fait c'est un livre de portrait.
C'est un livre de portrait, oui. Mais après, quand elle revient au roman un peu chantilly, elle ne sait plus très bien faire ça.
Vous avez cette expression, Annick Jail, dans votre livre, quand vous comparez Barthes à Sagan, c'est la même façon de rayonner timidement.
Oui, alors justement, timidement, c'est un mot important pour Françoise Sagan, car bizarrement, elle était timide, et Barthes aussi.
Et on l'entend un petit peu dans les archives.
On l'entend, n'est-ce pas ? Elle était timide, et donc elle était très gênée par cette timidité, et elle la dominait, elle parvenait à la dominer, mais elle était très timide, et Barthes m'avait frappée par cette même timidité. Je me souviens d'ailleurs que lors de ce dîner avec Roland Barthes, il était très malheureux parce qu'il allait sortir son fragment d'un discours amoureux, et il m'avait dit « si je pouvais tout arrêter, si je pouvais jeter, brûler ce manuscrit, c'est une erreur totale ». alors qu'en fait, c'est son meilleur livre. Et donc, pour revenir à Sagan et Barthes, le point commun, c'est l'athéisme amoureux, c'est-à-dire celui que j'attends n'existe pas. Celui que j'aime, ce Dieu envolé, c'est un Dieu envolé, comme disait Camille Claudel, c'est-à-dire l'autre tant aimé, tant chéri, tant espéré, il n'existe pas.
Ou alors peut-être parce que c'est une manière de trop s'aimer soi-même. Finalement, celui qu'on attend, c'est peut-être simplement soi-même, et c'est ce qui empêche de rencontrer vraiment l'amour.
Sans doute, il y avait ça, mais il y avait surtout aussi le fait que peut-être il n'était pas libre, ou qu'il était ailleurs, ou que c'était toujours assez impossible, quoi. Donc il y avait une espèce de pudeur chez l'un et chez l'autre à ne pas exprimer le désespoir, ni ce besoin de l'autre, à le cacher soigneusement, par élégance. La même élégance, la même pudeur, la même désespérance, et l'autre est un dieu envolé.
Sur l'amour, écoutons Françoise Sagan.
L'amant, c'est un personnage qui revient, en général il est fascinant, c'est le nirvana, enfin, il est intéressant généralement.
Hein ? Forcément, pourquoi prendre un amant, ce n'est pas fascinant ?
Oui, enfin, il y a des amants qui ne sont pas du tout fascinants, paraît-il.
Oh, bah, ça, je ne les prends pas.
Vous ne les prenez pas, vous ?
Oh, bah, quand il ne me fascine pas, j'ai aucune raison de me mettre dans un lit avec quelqu'un qui m'ennuie, qui ne me fascine pas, enfin, qui ne me plaît pas ou qui n'a pas une forme de séduction.
Ça me l'a dans tous vos romans, il y a l'amant en général. Il est très important.
Ben oui, c'est le vieux travers.
Il est plus important que les autres personnages.
Ben évidemment, puisque c'est l'amant. Donc c'est l'amant, c'est l'amour. L'amour, c'est quand même important.
Donc il y a que l'amour n'est envisageable qu'avec l'amant.
Alors, ça peut être envisageable avec son mari aussi, si on est passé de...
Oui, mais le mari est toujours secondaire, je vous y arrive toujours après.
Ah ben, généralement, il arrive avant.
Oui. Il arrive voilà, avant, mais...
Chronologiquement.
Essentiellement chronologiquement.
Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas toujours un amant, d'abord, c'est pas vrai. Par exemple, je sais pas, vous me parlez de quoi ? Je sais pas, dans vous, Bram, Salem, l'homme, son amant, d'ailleurs, avec qui elle vit depuis très longtemps, et puis il y a un petit jeune homme qui tombe fou amoureux d'elle, avec qui il a une histoire, qu'il aime follement, mais elle aime toujours l'autre. Je veux dire, on peut prendre un amant tout en étant fidèle dans l'esprit, dans la tête, c'était une chose... qui peut arriver à une femme excédée, fatiguée, blessée, trompée.
L'amour, Annick Gels, c'est donc le grand sujet de l'œuvre et aussi de la vie de Françoise Sagan.
C'est son grand sujet et c'est d'autant plus intéressant que donc elle est une athée de l'amour, c'est-à-dire l'hypothèse délicate des âmes et des cœurs qu'elle... peint si bien ces hypothèses délicates de Marivaux. D'ailleurs, il y a de grands points communs, n'est-ce pas, entre Marivaux et les sentiments qui avancent masqués chez Sagan. Donc, elle dépeint très bien les affres délicieuses de la Café Société, les affres sentimentales, sexuelles, enfin, l'amour auquel elle ne croit pas, mais qu'elle voudrait, bien entendu. Il y a ce côté, comme chez Billie Holiday, d'ailleurs, « The man I love, maybe Tuesday, maybe Wednesday », etc. C'est ça, Sagan.
Ou alors 2 ans.
Oui, l'amour dure 3 ans. Mais c'est toujours quelqu'un d'autre, c'est toujours ailleurs, c'est toujours demain. C'est dans la vie de Françoise, mais dans son œuvre, on voit bien que le pivot central, c'est la déception amoureuse quand même. Quand le destin tombe, c'est toujours le coup près, c'est toujours la déception, la trahison... les désillusions, c'est là qu'elle brille, Sagan, avec une cruauté vraiment formidable.
Et l'amour, vous l'avez connu avec Françoise Sagan, vous étiez journaliste, vous aviez 23 ans, vous étiez même directrice du journal Playboy, et un jour, vous pensez aller chez Françoise Sagan, à la fois pour l'interviewer et aussi peut-être pour lui demander une nouvelle.
Ça a été un coup de foudre amical, c'est-à-dire vraiment... C'était extraordinaire parce que j'étais intimidée parce que j'arrivais en retard. En plus, vous savez, celui qui arrive en retard, il est lourd, il est pas bien, c'est quelqu'un d'un peu lourdeau. Et donc, enfin, il se sent comme tel, bien sûr, hein, grossier. Donc, je me sentais grossière, lourdeau, enfin tout ça. Et elle m'a mise à l'aise.
Elle était également elle-même très en retard dans sa propre maison.
Oui, j'ai vu qu'elle me pardonnait très vite, en tout cas, ce retard. Mais voilà, et c'était un vendredi à 17h. Et donc, vendredi à 17h, et je suis partie à 2h30 du matin, vous voyez. On était toutes les deux à parler seulement, quoi. Parler seulement pendant des heures.
Elle vous a proposé du saumon fumé et de la vodka, c'est ça ? Elle vous a dit vous devriez rester ce soir.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et vous devriez rester ce soir. En même temps, c'était la revoyure certaine parce que on avait vraiment le sentiment d'une rencontre importante. On était d'accord sur tous les livres. On a parlé littérature alors qu'elle détestait parler littérature. Parce que c'est bizarre de dire ça, mais cet écrivain qu'elle était, l'écrivain qu'elle était, n'aimait pas parler littérature avec tout le monde. Et les journalistes qui venaient beaucoup la voir, dont moi, elle n'aimait pas. Elle est faux-fuyant, tout ça. Elle parlait d'autre chose parce qu'elle savait que ça serait... Bon. Avec Bernard, oui, toute la nuit, tout le temps. Voilà, peut-être aussi, je ne sais pas, j'imagine, j'étais pas là, mais avec Gréco, des gens comme ça, je ne sais pas. Avec Florence Malraux, sans doute, oui. Mais pas avec les journalistes qui venaient la voir. Donc elle avait toujours des... Elle avait les réponses stéréotypées. Alors attendez, je vous emmène dans ma chambre parce que je vous aime bien et tout. Mais c'était pas vrai, elle faisait ça à tout le monde.
Oui, parce que du coup, elle vous emmena, j'emploie tout
oui,
d'un coup le passé simple.
Oui, comme elle le fit avec les autres.
Comme avec les autres, directement dans sa chambre,
dans
le premier
chambre.
Jour.
Mais c'était une chambre-salon, je dois dire. C'est-à-dire que là, il y avait des plantes énormes, il y avait beaucoup de livres, il y avait surtout Billie Holiday et Barbara en boucle. Et Françoise, si vous voulez, je l'ai vue faire avec d'autres après, mais c'était fou comme elle les roulait un petit peu dans la farine. Parce que Françoise avait une qualité, un défaut adorable, c'est qu'elle mentait comme elle respirait, quoi. Malraux, je suis un mensonge qui dit la vérité. Dans ses livres, elle mentait. Et dans la vie, elle mentait aussi, mais avec telle fraîcheur. Donc, moi, je me méfiais beaucoup de tout ce qu'elle disait, parce que je savais qu'elle mentait.
Ça devait être dur, quand même, comme relation.
Non, jamais. Jamais, parce qu'on s'aimait beaucoup, parce qu'elle savait que je comprenais, parce que je savais qu'elle me comprenait. On se comprenait et on s'aimait. On était d'accord sur l'essentiel. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais compris bien pourquoi. On aimait Faulkner. Bon, ben, c'est pas si original d'aimer Faulkner, mais pourquoi on aimait bien en parler toutes les deux. Et pourquoi elle me disait toujours le Lot, c'est une Bretagne sans mer. Viens dans le Lot. Viens vivre avec moi dans le Lot, etc. Elle s'était vraiment. On s'était rencontrés. Comme si ça devait avoir lieu, quoi. J'ai beaucoup aimé Françoise. Elle a été la marraine de mon premier roman. J'ai écrit chez elle et elle m'a porté bonheur. C'est ma bonne fée.
Et son roman préféré de Faulkner, c'était Les Palmiers Sauvages, parce qu'elle aimait particulièrement le titre. Olivier Mauny.
Oui, je vous écoutais. Je ne suis pas, quant à moi, sûr que la grande affaire de sa vie, ça soit l'amour. Je suis... certain qu'elle a essayé de spectaculariser d'une certaine manière ça, parce qu'elle n'était pas dénuée d'un certain sens du storytelling, comme on ne disait pas à l'époque. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que la grande affaire de sa vie, ça a été la solitude.
Est-ce que ce n'est pas le pendant de l'amour qu'on recherche, la solitude ?
Il y a peut-être une chose qu'on ne dit pas assez aujourd'hui sur Sagan, parce qu'on est peut-être trop pris par la mythologie saganienne. C'est que c'était une bourgeoise. Et alors évidemment, quand on dit ça, on a l'impression que ça a quelques caractères péjoratifs. C'était une bourgeoise telle que nous ne connaissons plus la bourgeoisie aujourd'hui.
Une rêveuse bourgeoisie, comme
une rêveuse bourgeoisie, c'est exactement ça. Y a d'ailleurs quelqu'un dont on ne parle pas assez à mon goût ces temps-ci, dont Sagan descend en droite ligne au moins autant que Proust et Fitzgerald, dont elle réclamait pas, mais à qui on la parie volontiers, c'est Louise de Villemorin. Il faut relire aujourd'hui Madame II, il y a des échos de Sagan là-dessus. Et il y a la même la même douleur extrêmement agréable de la solitude chez l'une et chez l'autre, qui d'une certaine manière rend la phrase de Sagan, parce qu'on en revient, et là je partage tout à fait le point de vue d'Annick Jade sur le fait que la grande affaire de sa vie c'était la littérature au fond, il y a une chose qui fait que Sagan, en dehors des aspects mythologiques, demeurera, c'est sa phrase. La phrase de « Bonjour tristesse », elle est absolument intemporelle et je suis absolument certain qu'elle le restera.
Annick Jay.
Olivier Mauny a tout à fait raison. La solitude, c'est le mot, c'est presque un synonyme de Sagan, quoi. C'est-à-dire, elle était seule parmi les autres. Elle était seule avec elle-même, puisque je parlais de séparation au début d'émission, c'est-à-dire qu'elle se sentait, elle se voyait, elle se regardait toujours, elle n'était jamais tranquille, elle se voyait.
Et pourtant,
avec...
elle a l'air tellement naturelle.
Oui, mais elle se voyait avec sévérité, c'est-à-dire qu'elle n'était pas indulgente. Elle était indulgente avec autrui, mais pas avec elle-même. Et cette solitude dont parlait Olivier Mauny allait de pair, je pense, avec son désespoir. Et son... elle pensait tout le temps à la mort. La mort était une obsession chez elle, comme elle l'est d'ailleurs chez moi. Et c'est aussi une chose qui nous a beaucoup rapprochés.
Merci Annick Gel, merci Olivier Mauny. Et tout de suite, la poésie. Comme chaque jour à 15h54 sur France Culture, c'est donc le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose d'entendre des textes du regretté Christophe Tarkos, mort du cancer en 2004 à seulement 41 ans. Aujourd'hui, frénésie d'ouverture.
Bonjour. Cette semaine, nous sommes avec Tarkos. Christophe Tarkos, né à Martigues en 1963. Très productif et hyperactif, Tarkos mort en 2004 d'une maladie cérébrale dont il s'est su condamné à la fin des années 90. Je m'agite, je ne me retiens plus, je suis agité, je pars dans tous les sens, il n'y a plus de guide, je ne sais plus où je suis, ça ne tourne pas, ça s'agite, je suis nerveux, je ne sais plus où tourner mon regard, mes yeux ont tourné, je me retourne, je ne suis plus que de l'agitation, de la nervosité, des nerfs, des agitations incontrôlées, incontrôlables. Je ne me contrôle plus. La répétition est dans la poésie contemporaine parfois une technique rengaine, dit Nathalie Quintane, sa complice et son amie pendant quelques années. À travers Tarkos se fonde une nouvelle école, une petite révolution dans l'écriture poétique. Le poème de Brouwer, inspiré par le mathématicien néerlandais Jan Brouwer, est un poème sur le point fixe qui se crée au milieu du tourbillon formé par le mouvement rotatoire de la cuillère. Le poème de Brouwer. Le poète écrit un poème et photocopie son poème. Pose une feuille du poème au fond d'une boîte, prend une feuille du poème, la chiffonne et la jette dans la boîte. Mais une lettre reste au fond de la boîte. Le poète prend une autre feuille, poème, le chiffonne, le mâchonne dans sa mâchoire, l'écrase et le jette dans la boîte. Une lettre du poème reste à la même place au fond de la boîte. Le poète reprend un poème feuille, fait une boule qu'il jette dans la boîte. Une lettre du poème en boule est à la même place que le poème endormi au fond de la boîte. Le poète prend un poème feuille, fait un poème boule, le jette dans la case de la boîte. Une lettre n'a pas changé de place une autre fois, la boulette poème. Le poète la jette dans la boîte, roule en boule dans la boîte, une lettre de la boule est attachée à une lettre du fond, le poète reboulette le poème, le récrase, le retasse, le rejette, une lettre du poème devenue boule reste à l'endroit du poème, le poète relance sa boule dans le cadre étal d'une boîte, une lettre du poème grossier reste collée à la lettre du poème fond, reforme une boule qui roule, mais une lettre du poème boule se trouve juste au-dessous de la lettre du poème rangée au fond de la boîte. Et nous reprenons « Je m'agite ». Je m'agite, je ne veux plus de moi, je veux que cela parte, je veux que si cela ne peut pas partir, que je soulève, que j'éloigne, que j'enlève, que j'arrête, je peux tout arrêter, je peux me faire mourir, je peux me suicider, je vais me faire arrêter, si je ne peux pas continuer, j'arrête tout, je vais me faire disparaître, j'arrête, je coupe, je cesse, je meurs, je me tue. Les démons sont de bons contes qui font des cauchemars, qui font peur, qui font de grandes frayeurs, qui font glisser, qui font descendre, qui font tomber, qui font des histoires étranges, étrangement effrayantes, étrangement effroyables, à vouloir sortir, à vouloir en sortir. Il bouge, il s'agite, je bouge, je m'agite. Il ne veut pas crever, il a une idée de comment s'en sortir, de comment se sauver. J'ai une idée de comment sortir, je veux sortir, je vais sortir, je vais trouver une solution pour m'en sortir. Je ne peux pas rester comme ça, à ne rien faire, à ne pas me sauver, à ne pas m'évader.
Profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes extraits des œuvres poétiques de Christophe Tarkos, édité par POL. Et c'est ainsi que se termine cette première édition d'une compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivaine Françoise Sagan, quelques jours avant la remise du prix qui porte son nom. Un grand merci à vous, Annick Jail, dont je rappelle que votre livre Un amour de Sagan a paru chez Pauvert en 2007, et puis à signaler votre roman Rien que la mer, qui est à paraître, celui-là, aux éditions La Grande Ourse. Ce sera fin août. Merci également à vous, Olivier Moni. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou directement sur le site internet de France Culture. C'est le cas aussi de toutes nos émissions depuis le début de La Compagnie des auteurs. Demain, Sagan, la suite, avec le regard d'une universitaire et d'une écrivaine, Eve-Alice Roustan et Véronique Olmy. Cette émission était réalisée par David Jakubowicz. À la console, il y avait Pierrick Monsigny. Merci à Pascaline Bonnet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.